Magazine de l'environnement, C'est pas du vent, reçoit aujourd'hui en première partie le député vert Yves Cochet. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous aujourd'hui qui allez réagir à l'actualité du jour avec votre regard environnemental et à la revue de presse africaine de Zéphirin Kouadio.
Et puis en deuxième partie, notre dossier sera consacré au PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, en présence d'Hakim Steiner, son directeur exécutif, et de Sylvie Lemay, en charge de la division technologie, industrie et économie.
Alors Yves Cochet, vous êtes le député vert de la 11e circonscription de Paris. Alors vous avez vu, c'est le nouvel an chinois, on entre dans l'année du buffle. Pour vous, c'est un bon présage ?
Eh bien, le buffle semble un animal, disons, puissant. Mais d'après ce que j'ai vu ou entendu, oui dire, l'année elle-même ne sera pas forcément bonne, même du point de vue de la métaphysique chinoise, parce que pour des raisons plus concrètes et plus matérialistes, la récession va sans doute frapper tout le monde, y compris la Chine.
Alors, l'actualité est marquée dans le sud-ouest de l'Europe par des vents violents dus à une tempête en provenance de l'Atlantique qui a lourdement touché l'Espagne et la France. Un phénomène qui nous a rappelé la tempête de 99 à peu près à la même époque et que l'on avait déjà surnommé à l'époque la tempête du siècle. Alors, des événements climatiques forts dont la fréquence est peut-être normale à l'échelle du siècle, mais qui alimentent de nombreux débats sur les perturbations climatiques en cours. Même si en la matière, nous n'avons pas assez de recul pour savoir si ce sont des manifestations que l'on peut imputer véritablement au changement climatique. Mais le fait de l'évoquer, c'est peut-être déjà le signe d'une prise de conscience de ces changements. Vous avez l'impression que le message est passé en Europe ? Sur ces questions
de... le message sur le changement climatique est passé, on le voit avec les lois Grenelle en France et d'autres initiatives européennes, comme le paquet énergie-climat, qui s'est conclu d'ailleurs il y a à peu près un mois dans des très mauvaises conditions, mais enfin Sarkozy voulait boucler sous sa présidence. Mais si le message est passé, les actions, elles, marchent peu, sauf parfois à l'échelon territorial. Donc je regrette qu'à l'échelon européen ou international, il n'y ait pas assez de volontarisme. On le verra notamment à Copenhague, évidemment, en décembre 2009 de cette année. Mais c'est la dernière chance. Si on loupe Copenhague, eh bien, je crains beaucoup pour nos enfants et petits-enfants.
Alors cette tempête pose d'autres problèmes, comme on l'a entendu ce matin dans la revue de presse de Frédéric Couteau sur RFI.
La distribution d'électricité semble toujours aussi vulnérable. En effet, s'indigne Libération, la France est trop dépendante d'un système de production et de distribution d'électricité fondé sur de grosses centrales nucléaires et des centaines de milliers de kilomètres de lignes en l'air, très fragiles. Alors, s'interroge le journal, pourquoi ne pas développer un modèle plus décentralisé de production d'électricité qui allégerait ces longs réseaux si vulnérables ? Pourquoi ne pas en profiter pour mettre en place des moyens de production plus écologiques, solaires ou éoliens, et investir davantage en parallèle sur l'enfouissement des lignes ?
Yves Cochet, vous avez hoché la tête.
Oui, alors sur l'enfouissement des lignes, j'en suis pas sûr, parce que des lignes à très haute tension, pour être enfouies, ça coûte très cher. Donc ça m'étonnerait que EDF et ses filiales puissent investir sur ce point. Mais bien sûr, au contraire, alors les énergies décentralisées, beaucoup plus proches finalement entre la production et la consommation, d'une part, il n'y a pas des grandes pertes en ligne, hein, parce que sinon, il y a à peu près 5 à 7% d'électricité qui s'évapore dans les lignes. Et d'autre part, il y a évidemment moins de dégâts dans la mesure où il peut y avoir quelques cellules régionales ou locales de ces énergies décentralisées qui souffrent, mais pas toutes à la fois, et par conséquent, d'une certaine manière, il y a plus de résilience, comme on dit, plus de résistance à ce type de réseau très maillé, très fin, plutôt qu'un réseau en étoile autour de grosses centrales. Alors bien sûr, ça ne peut être fait qu'à base de renouvelables. On a cité le photovoltaïque, par exemple, ou les éoliennes. Il y a encore deux ou trois autres moyens de faire de l'électricité renouvelable, la microhydraulique, le biogaz avec la cogénération.
Bon, alors autre sujet dans l'actualité en Argentine, le gouvernement qui étudie des mesures d'urgence pour lutter contre la sécheresse qui affecte durement la production agricole. Cette sécheresse qui est la pire depuis ces 5 dernières années, hein, aurait tué beaucoup d'animaux, détruit la moitié de la récolte de blé et de maïs. Et le manque d'eau menace la production de soja. Les pertes sont estimées à 4 milliards de dollars sur ses principales exportations. Alors on voit bien avec cet exemple, Yves Cochet, comment le climat peut impacter l'économie, surtout dans des pays déjà fragilisés.
Bien entendu, on le sait depuis un certain temps en Afrique subsaharienne, on le voit maintenant dans d'autres pays comme l'Australie ou l'Argentine, des pays franchement de l'hémisphère sud, et les changements climatiques formidables, exceptionnels qu'on va vivre pendant tout ce 21e siècle vont menacer d'abord l'agriculture, c'est-à-dire quand même le premier moyen de subsistance de l'humanité, notamment pour des pays exportateurs comme l'Argentine ou l'Australie, qui, comme l'Ukraine, comme le Canada, qui étaient autrefois les greniers du monde, eh bien ils peuvent être menacés par des épisodes violents ou inattendus qui font que le commerce des céréales n'ira pas de soi. Et même pour l'Argentine qui produit pas mal aussi de viande, de bœuf, eh bien, ça peut être un problème pour le fourrage des animaux.
La semaine dernière, vous avez proposé une loi devant l'Assemblée nationale française pour que l'empreinte écologique soit utilisée comme un outil principal d'évaluation des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste et qu'est-ce qui s'est passé ?
Pour l'empreinte écologique d'une population, celle de la France par exemple, ou de l'Europe, c'est un certain nombre d'hectares, puisque ça se mesure en hectares, qui sont nécessaires pour tirer les richesses dont nous vivons, donc les extraire soit du sous-sol, soit du sol pour l'alimentation ou l'eau, et également recycler des déchets que nous rejetons dans les milieux, l'atmosphère, les eaux ou les terres. Donc c'est tous ces hectares, qu'on peut appeler hectares globaux, qui mesurent l'impact d'une population sur son propre territoire. Excusez-moi, on peut dire par exemple que la France a une empreinte écologique en moyenne par habitant d'à peu près 5 hectares, ce qui est 2,5 fois trop par rapport à sa surface biologiquement productive. Autrement dit, les Français, pour vivre comme ils vivent, sont obligés d'emprunter des hectares à d'autres, notamment des hectares à l'Amérique du Sud et à l'Afrique, des hectares qui ne nous appartiennent pas et qui privent d'autant les populations locales de ces hectares, car évidemment un Burkinabé ou un Américain du Sud a une empreinte beaucoup moindre que celle de la France, de l'ordre de 0,5 pour le Burkinabé ou 1 pour l'Américain du Sud en moyenne. Donc il y a une inégalité, une sorte de dette écologique des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud, les pays du Nord vivant au-dessus de leurs moyens, alors que les pays du Sud, eux, ne parviennent pas à se développer, précisément parce qu'il y a la prédation des hectares biologiquement productifs par les pays du Nord.
Alors vous n'avez pas réussi à faire voter cette loi ?
Non, alors le gouvernement et la majorité ne sont pas contre l'idée que l'empreinte écologique soit un indicateur, le bon indicateur pour mesurer, par exemple, la mise en œuvre d'une politique telle que le Grenelle de l'environnement. Mais ils pensent que les recherches scientifiques doivent continuer et peut-être qu'en 2010, eh bien, cette loi sera finalement adoptée.
Je vais vous remettre un coup. gazmanda ci su sono ben buono al mattino che non la tagmo che non la tagmo.
Oasis Diop, Solala, dans ses pas du vent sur RFI. Comme tous les jours, on se penche sur l'actualité environnementale d'un continent, aujourd'hui l'Afrique. Et c'est avec vous, Zéphirin Quadio, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence par le Tchad, où la crise du charbon de bois et du bois de chauffe est à la une de toute la presse.
Oui, alors que le charbon de bois constitue la seule source d'énergie pour plus de 90% des ménages à N'Djamena, écrit le journal Notre Temps, le gouvernement a pris des mesures contre l'utilisation de ce produit sous prétexte de lutter contre la désertification. Par ailleurs, le gaz qui est censé remplacer le charbon de bois reste hors de prix pour les habitants, souligne en substance notre confrère, faisant écho des communiqués diffusés par certaines associations qui se félicitent du souci de préservation de l'environnement manifesté par le gouvernement. Le journal relève que ces associations considèrent toutefois que la décision a été prise d'une manière hâtive, sans mesure d'accompagnement et de garantie suffisante pour la population. Pour sa part, l'hebdomadaire Le Temps, s'appuyant sur le mandat social prôné par les gouvernants et les différentes décision prise par la suite, considère dans son éditorial que la lucidité a manqué et le mandat social est devenu un mandat asocial. Et notre confrère de noter que l'année 2009, comme la précédente, placée sous le mandat social, a très très mal démarré pour les Tchadiens en général et les habitants de la capitale en particulier. Des habitants qui n'ont que leurs yeux pour pleurer, privés désormais de nourriture, croulant sous le poids de la cherté de la vie, ceux-ci attendent de mourir de leur belle mort, conclut notre confrère. Mais face à cette situation, dès vendredi, à l'appel de l'opposition tchadienne, la population a sorti les casseroles pour un tintamarre de 15 minutes tout au long du week-end. Une manière originale de s'opposer à cette décision qu'a condamné sur notre antenne le porte-parole adjoint de la CPDC, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, Salé Kebzabo, joint par Olivier Roger.
Le gouvernement a pris de façon brutale la décision d'interdire la vente du charbon et du bois de chauffe à N'Djamena. Or, chez nous au Tchad, la grande majorité, 99% des Tchadiens, ne connaissent pas le gaz. Et donc, si le gouvernement veut lutter contre la déforestation, il devrait au préalable étudier la question et faire en sorte que la population ait le moyen de passer du charbon au gaz. Si vous leur dites de passer au gaz, il leur faut acheter la gazinière qui va coûter au bas mot 5, 6 000, voire 10 000 francs CFA. Leur trésorerie ne leur permet pas de débourser une somme aussi importante. La décision du gouvernement, elle est grave parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la cuisine à l'heure actuelle. C'est le mépris pour la population. Hein. Je crois qu'il y a un gouvernement qui se croit tout puissant, qui peut se permettre tout ce qu'il veut. Il est armé, il a la majorité à l'Assemblée, donc il s'en fiche éperdument des décisions, même si elles sont mauvaises et impopulaires.
Des propos de Salé Kebzabo, le porte-parole adjoint de la CPDC, joint par Olivier Roger. En bref, et toujours à propos de charbon de bois, à Madagascar, 75% d'une parcelle de 250 hectares de la station forestière d'Ansa Anitia ont été totalement détruites par l'exploitation illicite et sauvage de charbon de bois perpétrée par des habitants. C'est à lire dans l'Express de Madagascar.
Au Sénégal, face à l'avancée de la mer, des insulaires du sud de Ziguinchor. Et ce sont ces insulaires qui tirent le signal d'alarme.
Oui, c'est à lire dans le quotidien Le Soleil, qui raconte que les populations des îles situées au sud de Ziguinchor ne ratent plus une occasion de tirer la sonnette d'alarme sur les menaces réelles qui pèsent en ce moment sur leurs côtes du fait de l'avancée des eaux de l'océan sur la terre ferme. Ce phénomène qui a fini de prendre de l'ampleur dans les îles du Kassa et de Kafoutine, poursuit le journal, hante désormais le sommeil des insulaires du sud. Plusieurs dizaines de mètres ont été ainsi engloutis sous l'œil impuissant des populations de ces localités de la région jadis considérées comme des paradis sur terre.
Enfin, toujours au Sénégal, 50 millions d'euros ont été débloqués pour faire le ménage dans la baie de Han.
Oui, la baie de Han qui, selon le journal Wal Fadjiri, se meurt. Sa pollution a atteint des proportions telles qu'elle a été rangée parmi les plages les plus polluées du monde. Mais cette pollution, poursuit notre confrère, sera bientôt un très mauvais souvenir pour les habitants de cette localité. Ces derniers vont en effet pouvoir respirer sous peu de l'air pur grâce au projet de création d'un réseau d'assainissement le long de la baie, un projet financé par la coopération française et la Banque européenne d'investissement, un projet sur lequel Denis Castin, directeur de l'Agence française de développement au Sénégal, s'est exprimé sur notre antenne au micro de Laurent Corot à Dakar.
Actuellement, les usines rejettent directement leurs effluents pollués dans la baie. Hein. Ce qui est prévu, c'est de canaliser ces effluents et qu'ils soient recueillis par une sorte de canal qui va être tout le long de la côte. Et ensuite, tous ces effluents pollués vont être traités par une station de traitement. Et l'eau dépolluée va être transportée à 2 ou 3 km au fond de la mer par un émissaire, où là, elle achèvera la dépollution par la biologie de l'océan lui-même.
Le projet applique aussi l'approche pollueur-payeur. Les industriels de la baie de Hann seront appelés à prendre en charge eux-mêmes une partie du coût du service d'assainissement.
Un sujet de Laurent Corot. Merci Zéphirin Quadio.
C'est pas du vent. @rfi.fr.
Yves Cochet, vous suivez tout ce qui se passe en Afrique en termes de débats et d'initiatives sur toutes ces questions d'environnement ?
L'environnement et l'écologie en général, évidemment, ce sont des questions planétaires. Donc, en Afrique notamment, qui a le paradoxe d'être à la fois, sans doute, la région du monde où il y a le plus de biodiversité et même de richesses naturelles, et en même temps, celle où la misère et les difficultés politiques, voire géostratégiques, comme on le voit, disons, dans l'affrontement entre les Chinois, les Américains, les Français, qui viennent là de manière intéressée, sont les plus grandes. Donc, il y a un grand paradoxe africain, et ça n'est pas prêt, hélas, de se résoudre.
Alors Yves Cochet, on voit bien avec l'exemple de la crise du charbon de bois au Tchad, la difficulté pour les États de concilier préservation de l'environnement et les besoins énergétiques des populations. C'est compliqué.
Oui, alors c'est compliqué. Le charbon de bois n'est pas meilleur que le gaz, évidemment, quand on considère uniquement le point de vue, disons, thermodynamicien. Donc ça serait mieux le gaz, ceci étant dit, comme l'a dit d'ailleurs l'interlocuteur, ça coûte d'investir, et d'autre part, il faut faire venir le gaz. Il pourrait venir d'ailleurs de peut-être des torchères du Nigeria, où là, on le torche sans utilité, disons, sociale, et qui d'ailleurs, il participe à un effet de serre considérable. Ceci étant dit, encore faudrait-il pouvoir avoir des réseaux de distribution et de transport, tout ça est un peu compliqué. Bon, mais les difficultés écologiques vont avec les difficultés économiques et sociales. C'est plutôt un mode de vie qu'il faut regarder, et l'énergie même qu'on va utiliser n'est peut-être pas adaptée à des agglomérations trop fortes. Plus les agglomérations, les regroupements de populations sont forts, et plus l'impact sur l'environnement va être fort et donc difficile à maîtriser.
Et justement, on se demande à propos du pétrole, comment certains pays en développement vont faire bientôt pour payer leurs factures pétrolières, surtout quand les prix vont redémarrer.
En effet, les prix ont beaucoup baissé les derniers mois de 2008. Ils vont encore peut-être un peu baisser, encore qu'ils se stabilisent autour de $40 le baril. Mais dans certaines régions africaines, dans beaucoup de régions africaines, eh bien, dans un village, la seule source d'électricité, c'est le générateur diesel. Quand le diesel coûte trop cher, eh bien, aussi bien l'école que le dispensaire médical sont gravement atteints au prix de la mort de certains. Donc, on dit quelquefois que c'est les automobilistes occidentaux qui sont frappés par le litre d'essence à 1,50€, non, c'est surtout les gens qui dépendent de manière cruciale pour l'électricité de générateurs diesel, et il y en a évidemment des centaines de millions dans le monde.
Enfin, pour terminer, Yves Cochet, à travers l'exemple de la baie de Hann, on voit bien comment les déchets industriels sont un véritable problème à gérer, surtout dans des pays qui ne sont pas dotés d'équipements pour les traiter très rapidement.
Oui, en France, il y a la loi sur l'eau qui dépend des bassins versants. Elle est bonne. Elle date de 40 ans. Il faudrait traiter les problèmes écologiques par bassin versant. L'eau, c'est la base de tout.
Merci Yves Cochet. Vous reviendrez certainement dans cette émission. C'est pas du vent. On revient juste après un rappel de l'actualité. Nous nous intéresserons au programme des Nations Unies sur l'environnement avec Hakim Steiner, son directeur exécutif, et Sylvie Lemay, en charge de la division technologie, industrie et économie. A tout de suite.